Alors, ce matin, j'ai préparé un message en fait qui va nous faire voyager dans quelques petits textes bibliques. On va faire une petite promenade biblique. Et cette promenade, je l'ai construite en un sens où elle m'a été donnée, je ne sais pas trop, en préparant le caté, en vivant les temps de caté. Alors, j'ai pas de caté ici présent, je vois. Oui, Maëlys, c'est vrai. Mais Maëlys n'était pas là. Ouais, t'étais pas là jeudi. Voilà. Et c'était jeudi aussi que ce texte-là, on l'a eu. Et puis aussi avec les jeunes que je vais baptiser. Donc il y a Jérémy qui est là et qui va pouvoir nous rappeler ce qu'on a lu, bien sûr. Transpiration. Alors, commençons ce premier texte par Marc. L'évangile de Marc, ouvrez vos Bibles ou votre smartphone. Maintenant, on est au 21e siècle, donc on a la Bible sur smartphone. Marc, chapitre 8, et nous lirons les versets 31 à 38. Donc, ça, c'est le texte qu'on a lu avec les cathés. Maë, tu rattrapes. Il commença, Jésus, à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et fit des reproches à Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui. Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Un petit récit qui s'articule en deux parties. Une première partie où Jésus. Pardon, excuse-moi, je vais même me lancer dans la prédication, on n'a pas prié. Ça ne va pas. Le Seigneur est avec nous, mais quand même, prions. Seigneur, on compte sur toi. Voilà, on va se lancer dans la prédication, dans l'étude de ce texte, et on compte sur ton esprit qui habite en nous, qui habite en moi. Et qui a inspiré les mots, Seigneur, de ces auteurs bibliques, de Marc en l'occurrence. Et que cet esprit-là, Seigneur, nous dévoile ton visage, nous dévoile ton royaume et nous dévoile qui nous sommes réellement en te regardant face à face. Amen. Donc ce petit récit qui s'articule en deux étapes. Une première où Jésus explique à ses disciples qu'il est destiné à connaître la souffrance. Et que voilà, après sa souffrance, il y aura la résurrection. Bon, l'histoire nous raconte que les disciples n'ont pas trop cru ou compris la résurrection avant la fin. Et puis, Pierre, qui cherche à dissuader Jésus d'aller vers ce chemin de souffrance, et Jésus qui le reprend fermement. Et Marc, l'auteur, a voulu apposer, juste à côté de ce récit, entre Jésus et Pierre, là, un enseignement sur le fait que pour suivre Jésus, il faille porter sa croix. Donc Marc nous appelle à faire un lien entre l'échange qu'il y a eu avec Jésus, ses disciples, et puis particulièrement Pierre, et puis cet enseignement de Jésus sur le fait de porter sa croix. On trouve cet enseignement de Jésus sur le fait de chacun qui veut suivre Jésus doit porter sa croix dans les autres évangiles, Matthieu et Luc, mais ils ne les ont pas placés aux mêmes endroits. Alors, cherchons à comprendre Jésus. Il explique à ses disciples qu'il va souffrir, mourir et puis triompher de ses souffrances par la résurrection. Donc les disciples ne vont pas croire en cette résurrection avant de l'avoir vue, ne vont pas l'anticiper avant de l'avoir vue. Mais Pierre a quand même bien compris que son maître et son ami va devoir souffrir et mourir. Alors il le prend à part. Il le prend à part et commence à lui faire des reproches. Mais non, alors, le texte ne nous rapporte pas exactement les reproches qu'il lui fait, mais on peut supposer que c'est Jésus, tu es le Messie, tu es venu pour vaincre, tu es venu pour conquérir, tu ne te laisses pas faire, enfin, cherche un chemin, un autre chemin. Donc le fougueux disciple essaie de dissuader son maître d'aller à la souffrance. Et le texte dit, Jésus regarda ses disciples. Il ne se retourne pas juste pour s'adresser à Pierre, il regarde Pierre, mais il regarde aussi tous les autres disciples. Peut-être parce qu'il voulait faire de Pierre un exemple, ou peut-être parce qu'il cherchait à voir si les autres disciples, dans leur regard, ils avaient les mêmes réticences et la même gêne à imaginer que Jésus aille à la croix, quoi. On ne sait pas trop, mais il y a cette... Le texte dit, il regarda ses disciples, pas que Pierre. Et là, après avoir regardé ses disciples, il s'adresse à Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des humains. » Alors, avec les catéchés, on était marqués par cette scène « Arrière de moi, Satan. » Tu sais, dans les vieux films de vampires, c'était « Vade retro, Satanas », ça vient de là. Hein, et c'est la traduction latine. Et alors, ils se sont demandé, est-ce que Pierre il avait un esprit impur, est-ce qu'il était possédé, ou est-ce qu'il y avait Satan qui était là particulièrement, pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Et donc, on a, avec des questions, ils ont réussi à se souvenir que oui, on avait déjà vu ce texte. Alors, pas dans Marc, dans les évangiles parallèles, où en fait, au moment de la tentation de Jésus, c'est que le diable va visiter Jésus dans le désert. Juste après son baptême, il passe 40 jours dans le désert. Et à ce moment-là, en fait, le diable le visite et vient le tenter 3 fois. La première fois, il demande de changer. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si vraiment tu es le Messie, bah, change ces pierres en pain. Puis la deuxième fois, il lui propose de se jeter du haut du temple. Et il cite la parole en disant, Dieu enverra ses anges pour que ton pied ne heurte pas le... Et Jésus répond que non, on ne tente pas le Seigneur. Et à la troisième fois, le diable change un peu de stratégie. Il est bien conscient, le diable, que Jésus est venu sur terre pour une mission précise, reprendre le pouvoir. Le pouvoir que lui-même Satan, quelque part, a dérobé aux humains. Et Jésus, on l'a vu à l'ascension ensemble, Jésus, c'est l'humain que Dieu envoie pour redonner le pouvoir des humains et de Dieu, reprendre en fait ce pouvoir-là. Non pas que Dieu ait perdu le contrôle, hein, mais que c'était effectivement Satan qui avait la main mise sur la terre. Alors, le diable lui propose d'obtenir ce trône. Tu vois, tous les royaumes du monde sont pour toi. Je te fais roi des rois, juste en échange. Tu te prosternes et tu m'adores. Tu reconnais que c'est moi qui t'ai donné ce pouvoir. Ça, c'est le chemin que proposait Satan. Et à côté, il y a le chemin à lequel Dieu l'appelle. Et vous connaissez le chemin pour lequel Christ doit passer. Si vous ne le connaissez pas, je vous le mets en suspense parce qu'on va le voir après dans un autre texte. Mais c'est un chemin de souffrance. Donc le diable avait la main mise sur les nations du monde, il avait même réussi à détourner Israël, Jérusalem, de son Dieu. Mais Jésus s'adresse à Satan et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul de tout ton cœur. » Alors quel point commun entre les propos de Satan et les propos de Pierre? Eh bien, dans les deux cas, il est proposé à Jésus de monter sur le trône sans souffrance. Il est bien question d'être intronisé. Jésus, quand il, on l'avait vu au dimanche des Rameaux, quand il est monté à Jérusalem, il a orchestré son entrée triomphale, il a repris tous les symboles de la royauté, monté sur une mule, comme Salomon, les palmes qui célèbrent la victoire. Il s'est rendu directement dans le siège du pouvoir, le temple, Il savait qu'en entrant dans Jérusalem ainsi, en chassant les vendeurs du temple, en confrontant les prêtres sur place, il se condamnait à mort. Et pourtant, c'est bien pour recevoir le trône des trônes que Jésus a agi ainsi, le trône du royaume des cieux. Le trône du royaume des cieux est un trône sur lequel on s'assoit en passant par la souffrance. Cela est vrai, non pas depuis toujours, cela est vrai que depuis la chute de l'humanité. Bon, ça date. Ce trône des trônes était alors offert aux humains, à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Il n'était pas question de souffrance alors. Mais les humains se sont révoltés, ils ont été perdus par le diable, ils ont fait entrer le mal dans le monde. Et depuis, quiconque voudra s'asseoir sur ce trône des trônes devra passer par la souffrance. Et nous verrons ensemble pourquoi et en quoi elle consiste. Revenons à Jésus. Les bébés qui pleurent sont bienvenus et on espère que les mamans et les grands-mamans pourront rester écouter la prédication et que nous tous, on va les bénir et supporter les pleurs des bébés avec bienveillance. Jésus a une mission. Il doit récupérer le trône pour qu'un humain enfin règne à nouveau au nom de Dieu sur ce trône. C'est ce que nous avons vu ensemble au dimanche de l'Ascension. Mais Satan propose à Jésus d'obtenir ce trône, devenir le roi des rois, mais sans passer par la souffrance, donc en acceptant d'être corrompu. Donc le royaume qui va naître de cette couronne n'aura rien de bon. Jésus aurait obtenu la couronne, mais en trichant. Il connaît, Jésus, le chemin qu'il doit passer. S'il avait pris ce chemin-là, nous aurions eu un roi des rois tyrannique, parce que qui cherchait à faire son intérêt à lui, avant de faire l'intérêt des autres. Et des dirigeants qui font leur intérêt, qui défendent leurs intérêts avant de défendre les intérêts de leurs concitoyens, on n'en manque pas. Mais des dirigeants qui se sacrifient pour leur peuple, et quelqu'un qui aurait les pleins pouvoirs sur toute l'humanité, qui se sacrifie pour son peuple. Ça, c'est quelque chose d'unique. Jésus chasse fermement le tentateur. Arrière de moi, Satan. Quelques semaines plus tard, Pierre, en entendant son maître lui parler de son chemin de souffrance, vient le voir et dit « Non, Seigneur, pas toi. Pas toi, tu es le Messie, tu viens gagner, toi, tu ne viens pas perdre. » Et Jésus entend dans les paroles de Pierre la même tentation d'éviter l'épreuve de la croix. Peut-être je spécule, peut-être la peur. Parce qu'on sait qu'au jardin de Gethsémané, Jésus était terrifié. Terrifié au point qu'il transpirait des grumeaux de sang. Donc peut-être qu'il y avait une épreuve là, de refuser d'échapper à cette souffrance. Ces pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des humains. Car celui qui veut être le premier dans le royaume des cieux devra devenir le serviteur de tous. Alors Marc, qui était le disciple de Pierre, qui vient de se faire repentir, choisit d'apposer juste à côté de cet épisode l'enseignement de Jésus. Celui qui veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Peut-être déjà vous comprenez un peu mieux les paroles du Christ. Suivre Jésus ne peut conduire qu'à une seule destination. Le trône. Ceux qui suivent Jésus seront appelés à régner sur ce monde. Rappelez-vous la promesse magnifique que Jésus fait à l'église de Laodicée. Pourtant, Laodicée, dans l'Apocalypse, ce n'est pas la meilleure des églises, des sept, hein, voire même c'est la pire. Il fait cette promesse incroyable. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il s'agit bien du trône de Dieu. Ce même trône sur lequel l'agneau est apparu il y a deux dimanches, au moment où on a fêté l'ascension. Parce que Dieu a toujours voulu confier le pouvoir dans ce monde aux humains. De même, le Seigneur, couronné de gloire à présent, attend avec grande joie dans le cœur le jour où, revenant des cieux, il rétablira le royaume de Dieu sur la terre en nous confiant à nous, ses disciples, de régner sur le cosmos entier. Et si le chemin qui a conduit Jésus à s'asseoir sur le trône des trônes était un chemin qui passait par la souffrance, il n'en sera pas autrement pour nous autres qui voulons marcher à la suite du Christ et recevoir la couronne de vie pour prix de notre course. Ainsi, celui qui veut suivre Jésus doit porter sa croix, accepter d'entrer dans une vie différente où l'on ne cherche plus à gagner pour survivre, mais à servir pour faire vivre les autres, quitte à en souffrir. Et nous reviendrons sur ces souffrances. Cela nous conduit à un deuxième texte. Romains chapitre 8, le meilleur chapitre de la Bible. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Là, j'étais en train de préparer les jeunes au baptême. Et dans cette prépa baptême, en fait, je rappelais les diverses promesses que nous recevons lors de notre baptême. Et parmi ces promesses, l'adoption par Dieu, l'héritage avec Christ. Et justement, Paul nous en parle dans l'Épître aux Romains, au 8, voilà, les versets 14 à 17. Il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. On retrouve l'enseignement de Jésus. L'Esprit Saint fait de nous des enfants adoptifs de Dieu le Père, des sœurs et des frères de Jésus-Christ. Et dès lors, puisque nous sommes aussi les enfants de Dieu, nous héritons avec Jésus. Nous recevons le trône. Et Paul précise, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Gloire et souffrance, triomphe et croix. Irrémédiablement connectés. Mais pourquoi ? Pourquoi faut-il que les deux soient reliés ? Depuis la chute de l'humanité, il n'existe pas une seule âme sur la terre qui échappe à la souffrance, à la peur, à l'angoisse, au désespoir, à la maladie, à la violence, à l'ignorance, à la solitude, au rejet, à la pauvreté, au manque, à l'humiliation, à l'injustice, à la domination, au handicap. Bon. Toutes ces choses sont devenues la réalité de ce monde. Adam et Ève ont choisi de connaître aussi le mal. Et nous, les héritiers d'Adam et Ève de sang, devrons tous passer par cette expérience tout au long de notre vie. Il n'est plus possible d'y échapper. Mais si nous dépensons une énergie considérable à tenter de nous créer des petits royaumes stables, prévisibles, sécurisants, parce que nous aspirons profondément à la paix au fond de nos âmes, au repos. Et ce sont des aspirations légitimes. Je ne les remets pas en question. C'est des aspirations qui remontent à ce souvenir ancien, passé, ancestral du jardin d'Éden. Nous ne sommes pas créés pour la souffrance, nous ne sommes pas créés pour endurer. Nous sommes créés pour vivre dans la présence de Dieu, dans la joie, la paix et l'amour. Mais depuis que l'humanité a été chassée de ce jardin, nous soupirons après ce paradis perdu. Donc le problème, ce n'est pas de ne pas vouloir souffrir. Personne ne veut souffrir. Avec plaisir, ah oui, quand tu veux. Le problème, c'est de renoncer à faire ce qui est juste et bon pour échapper à la souffrance. Je répète, le problème, ce n'est pas de vouloir éviter la souffrance. Le problème, c'est que nous avons tendance à renoncer à faire ce qui est juste et bon pour échapper à la souffrance. Ou pour nous récompenser, pour nous dorloter. Et je ne parle pas de la croix, ni même d'être martyr, là. Je parle de tous ces choix où nous protégeons notre petit royaume, où nous fuyons les malaises, tout en étant conscients, parfois, des mauvaises conséquences que ça aura autour de nous, en nous. Nous mentons, nous ne dénonçons pas le mal, nous ne défendons pas le faible, nous nous réjouissons lorsque nous pouvons payer moins cher que le prix juste. Nous paraissons, au lieu de travailler pour un beau résultat, nous crions plutôt que d'écouter. Bref, pour le dire autrement, nous n'acceptons pas de porter notre croix. Nous cherchons à sauver notre vie. Paul, dans un autre texte, parle de ça aussi très simplement. Philippiens 2. Philippiens 2, il parle à ses chrétiens, il leur dit « S'il y a donc quelques consolations en Christ, et s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a vraiment une communion de l'Esprit-Saint, de la compassion et de la miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi Jésus a obtenu la couronne du roi des rois? Parce qu'il a accepté de se dépouiller, de devenir un humain, d'embrasser notre humanité, de la vivre, et de s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et parce qu'il a été le serviteur des serviteurs, le serviteur de tous les humains, alors Dieu a dit « Ok, à toi la couronne du roi des rois. » Frères et sœurs, peut-on revendiquer d'avoir comme Seigneur et Maître celui qui a choisi, qui a accepté d'être un serviteur pour tous, celui qui a renoncé à faire ce qui lui plaît à lui, ou à chercher son propre intérêt, ou à défendre son carré potager, ou à favoriser ses copains, celui qui avait les pleins pouvoirs et qui, à aucun moment, s'en est servi pour lui-même. On revendique ce Seigneur, on est heureux d'avoir ce Seigneur. Nous avons le meilleur maître, le meilleur chef, le meilleur roi qui puisse y être. Et ce roi veut vous nommer ministre, intendant, gérant. Il veut déposer auprès de vous une part de son autorité. Il veut vous confier une partie de son royaume. Il veut faire de vous des collaborateurs. Allons-nous chercher à profiter de cette situation pour faire ce qui nous plaît ? Où allons-nous chercher à apprendre à vivre cette autorité à sa manière, jour après jour, en devenant un peu plus serviteur des autres, en apprenant jour après jour à non pas faire ce qui me plaît, mais ce qui va bénir mon groupe, ma famille, ma maison, mon voisinage, mes collègues. Le chemin qui se dessine dans tous ces textes-là, c'est d'incarner l'évangile du Seigneur, un appel à vivre dans une certaine noblesse, une certaine vertu, une certaine grandeur. Une grandeur qui n'élève pas au-dessus des autres, mais une grandeur qui nous amène à leurs pieds. Qui ne cherche pas la gloriole ou la reconnaissance, mais la sincérité et la vérité. Une vie où on se donne aux autres. Qu'il me soit tout de suite permis de mettre en garde sur une grosse contrefaçon, grossière mais pourtant tellement présente. Servir les autres et être asservi par les autres n'ont rien à voir. Jésus nous appelle à porter notre croix. Porte ta croix. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes. Ce sont des choix personnels, libres. Je choisis de porter ma croix. Et si demain vous n'avez pas envie de la porter, ne la portez pas, et personne n'a le droit de vous l'imposer. Il ne s'agit pas de subir, mais d'offrir, et d'offrir gratuitement comme nous avons reçu gratuitement. Mais il arrive que nous souffrions de situations que nous ne choisissons pas, dans lesquelles nous ne pouvons pas nous extraire, des situations où nous sommes dominés, abusés, violentés, humiliés. Ne confondons pas ces situations où nous ne pouvons rien offrir puisqu'on nous vole tout, avec ces occasions de vie où l'apôtre et Jésus nous encouragent à nous offrir aux autres plutôt qu'à nous choisir nous-mêmes. Alors certes, Paul dira aux esclaves de son époque: trouvez le chemin à l'intérieur de vous de servir vos maîtres comme si c'était le Christ. Mais il leur dira aussi: si tu trouves une occasion de te libérer, saisis-la. Et il dira à Philémon, il l'encouragera à considérer Onésime non plus comme son esclave, mais comme son frère. Mais clairement, il n'y a que celui qui est libre qui peut s'offrir. Il nous faut d'abord retrouver cette liberté avant de nous offrir aux autres. Il est bien des domaines où nous devons retrouver notre liberté, notre souveraineté sur notre vie. Cela passera peut-être par des choix difficiles, des ruptures, des séparations, des chemins de désert, des sevrages, qui seront des souffrances choisies, des chemins de croix que nous déciderons d'emprunter pour suivre Jésus. Mais comme sa croix, lui, fut suivie d'une résurrection, ses souffrances choisies seront suivies de résurrection aussi. Libérés en Christ, nous connaîtrons des victoires et nous aurons de quoi nous offrir aux autres toujours plus. Et puis, il y a la liberté que vous avez déjà sur vous-même. Il y a ces domaines de ma vie où je ne suis pas maître, où je suis esclave, où je dois me libérer, puis il y a ces domaines où je suis déjà libre et régnant sur ma vie, et où je peux déjà choisir de m'offrir ou non. Gardez bien à l'esprit que dans toutes ces réflexions auxquelles je vous appelle maintenant, derrière ça, il y a cette idée fondamentale. Celui qui sert librement, par amour, dans le royaume, est plus grand que celui qui est servi par les autres. Je ne veux pas dire qu'il faut absolument refuser tous les services que les gens voudraient vous rendre. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que je veux renverser l'image de notre monde où celui qui se fait obéir par beaucoup est plus grand que celui qui sert. Ça, c'est notre monde. Dans le monde de Jésus, dans le royaume, c'est l'inverse. Il y a bien sûr toute la question des souffrances qu'on subit et qu'on ne décide pas, des maladies, des deuils, ces combats-là qui nous tombent dessus. Je ne veux pas les traiter ce matin parce que c'est un énorme chapitre à ouvrir. Juste vous encourager avec une dernière lecture qu'on a lue avec les cathés aussi. Non, pas, pardon, pas avec les cathés, avec la prépa baptême. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Donc Paul écrit à cette église de Corinthe, et l'église de Corinthe, c'est un peu le bazar parce que, voilà, bon, on est tous chrétiens, mais quand même, ensuite il y a ces grands maîtres de pensée qui étaient Paul et puis Apollos et puis d'autres. Et donc, les chrétiens de Corinthe se revendiquaient de telle école, et de telle école, et de telle école. Et ils, au lieu de s'unir autour du Christ, ils se tapaient un peu dessus en disant « Non, c'est Paul qui m'a baptisé qui est le meilleur. Non, c'est Apollos qui m'a baptisé qui est le meilleur. » Et Paul les reprend. Et dans cette façon de les reprendre, il rappelle quand même la responsabilité de chacun. Je vous lis ce passage. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit Paul, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. » Donc, architecte, fondement, on imagine une maison. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun de vous prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Connaître Jésus-Christ, quoi. Ça, c'est le fondement. D'accord ? Or, pour vous, hein, vous avez reçu l'Esprit Saint, vous connaissez Jésus, vous êtes connecté à Dieu, vous avez le fondement. Un fondement. Mais on n'habite pas dans un fondement. Il faut construire une maison. Or, dit Paul, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour du jugement, la fera connaître. Elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera la nature et l'œuvre de chacun. Si l'œuvre qui a été bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Pourquoi est-ce que je veux terminer avec ce texte-là ? Ce texte parle de la grâce. Vous avez le fondement, vous êtes sauvé. Alléluia, on se revoit là-haut, dans la vie après la mort. Mais il y a un challenge, il y a un défi qui nous est lancé là. Qu'allez-vous bâtir sur ce fondement ? Qu'allez-vous faire de votre salut ? Allez-vous travailler à votre salut ? Cette souffrance à laquelle nous sommes appelés lorsque nous décidons de suivre Jésus, c'est précisément celle qui va tendre en nous à bâtir une œuvre d'or, de pierre, d'argent, qui résiste à l'épreuve du feu. Nous extraire des habitudes mauvaises que nous savons avoir. Quitter ces pratiques, ces pensées, ces raisonnements qui nous habitent pour en adopter d'autres. Chercher à devenir une bénédiction pour les autres, à porter du fruit pour les autres. On verra cette question de porter du fruit dans une autre prédication. Tout ça a un coût, a un prix, et va nous amener à des petits choix de souffrance, de pénibilité, de désagrément peut-être, de se confronter à des choses où on n'est pas bon, on n'est pas sûr de nous. Cherchez là le chemin qui nous amène à suivre le Seigneur. Et peut-être de petits ruisseaux en rivière et de rivières en fleuve, votre vie sera conduite à de plus grands sacrifices pour le Seigneur. Mais alors vous serez prêts, équipés, parce que le Seigneur vous aura conduit. On ne cherche pas le martyr, on ne cherche pas la souffrance. Nous acceptons d'apprendre à régner avec Jésus. Nous acceptons d'apprendre à régner avec Jésus. Et nous acceptons que dans le royaume de Jésus, régner, ça veut dire servir.